France Culture.
France Culture. La Fabrique de l'Information, François Saltiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cette semaine, nous nous intéressons à un métier, un genre, une profession qui d'un coup de crayon déclenche toutes les passions lorsque son dessin vise juste dans cet équilibre fragile aux frontières de la provocation. Je pense aux dessinateurs de presse, les caricaturistes qui font partie depuis des siècles de notre paysage médiatique. Comment ce métier a-t-il évolué depuis le 19e et quels sont les défis de l'époque? Face au flux d'images qui nous submergent, quelle est la place du dessin de presse et son rapport ambivalent aux réseaux sociaux? Diffusé dans le monde entier, le dessin peut devenir au mieux un étendard des revendications en fédérant un large public, mais également être victime d'une décontextualisation qui détourne son sens premier. Nous reviendrons sur la période charnière des attentats de 2015 de Charlie Hebdo qui ont cristallisé empathie et division sur la liberté de la presse. Nous parlerons de la censure qui gagne du terrain outre-Atlantique où le métier est menacé avec le retour au pouvoir d'un Donald Trump tout-puissant. Et puis à l'heure où le festival de la BD d'Angoulême s'arrête, dans sa forme actuelle, nous ferons un bilan de santé du métier de dessinateur de presse. Comment les médias emploient ou non les caricaturistes? Quelle est la perception du métier chez les jeunes générations? Peut-on parler d'une désaffection? Bref, en un jeu de mots facile, le dessin de presse a-t-il bonne mine? Trois invités pour en parler. Et en studio avec nous, Corinne Ray, plus connue sous le nom de Coco. Bonjour Coco.
Bonjour François.
Vous êtes dessinatrice de presse pour Libération, toujours Charlie Hebdo et l'émission 28 minutes sur Arte. Et vous venez de publier aux éditions Les Arènes, signé Coco, soit un recueil de plus de 500 dessins d'actualité qui couvrent les 4 dernières années. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Guillaume Douazy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'histoire du dessin de presse et de la caricature et auteur notamment de Dessin de presse et démocratie à retrouver aux éditions de l'Échelle du Temple. À distance, pour compléter ce beau plateau, un autre dessinateur de presse, Patrick Chapat, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous travaillez pour la presse internationale en France, pour le Canard Enchaîné et la Tribune Dimanche, mais aussi pour le Temps en Suisse. Vous avez collaboré pendant 20 ans pour le New York Times avant que tout ne s'arrête. Vous en parlez dans votre dernier livre, Censure en Amérique, un dialogue avec Anne Telnes, ancienne caricaturiste pour le Washington Post, victime d'un pouvoir qui n'accepte plus la critique. Nous restons à l'international avec, comme chaque semaine, une chronique de Courrier, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère avec Daniel Bastard. Bonjour Daniel.
Bonjour François, bonjour à tous.
Le programme?
Nous allons partir en Turquie pour s'intéresser au combat du dernier journal satirique du pays.
Vous avez le menu de l'épisode 15 de La Fabrique de l'Information. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en direct ou en podcast sur l'application Radio France. Et avec un peu de chance, et ben vous pourrez peut-être voir un dessin du studio signé par Coco. Mais pour ça, il va falloir aller sur le site. C'est parti.
Il a révolutionné la caricature. Il a été arrêté et emprisonné. Il a recommencé et bravé la censure. Honoré Daumier est le premier caricaturiste français à utiliser le dessin satirique au service de la liberté d'expression.
Jospin, il est... Il est un peu triste, un peu serré du cul, voyez.
Je pense que la liberté d'expression qui est mise à la disposition de tous en France n'est pas assez utilisée. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'autres pays où on peut dire autant de choses.
Léonard voit passer sur son mur la dernière caricature de Babu. L'adversaire du maire y est croqué sous les traits d'un cochon avec ce titre « Voulez-vous d'un report à la mairie ?» Il éclate de rire et il partage ça aussitôt sur les réseaux sociaux.
Quand on est moqué, c'est jamais facile. Mais surtout, ce que je redoutais, c'était le dessin lui-même. C'est la représentation.
Quand j'ai commencé à comprendre que Donald Trump était un danger pour ce pays, j'ai voulu créer une sorte de marque pour qu'à chaque fois que j'utilise son image, il soit tout de suite reconnaissable. Et ce qui ressortait le plus pour moi, c'était cette bouche qui hurlait en permanence.
Au Washington Post, c'est le dessin qui ne passe pas. On y voit Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Post, faire une offrande à une statue représentant le futur président Donald Trump. Cette caricature est l'œuvre d'Anne Telnes, dessinatrice de presse pour le quotidien américain depuis plus de 15 ans. Pour la première fois, écrit-elle sur son blog, son dessin a été refusé.
Alors Coco, nous sommes dans la fabrique de l'information qui explore les coulisses du métier. J'en profite pour saluer l'ensemble des écoles de journalisme qui nous écoutent et qui écoutent beaucoup cette émission, parfois pour nourrir leurs cours, mais pour bien définir votre métier. Est-ce qu'on vous considérez comme artiste, comme journaliste ou les deux à la fois?
Oui, dessinateur de presse, comme le nom l'indique, c'est du dessin et c'est lié à la presse, à l'actualité, à ce qu'on lit. Et puis bien sûr, on est journaliste, on a les cartes, on fait des reportages, on va rendre compte de procès. On est toujours dans la curiosité et le besoin de donner l'information, de vérifier les sources, et de donner au lecteur une actu fiable, qui c'est pas toujours le cas. Maintenant, on est confronté à pas mal d'actu qui viennent pas forcément de médias institutionnels. Les gens s'informent de manière diverse et variée et parfois il y a des dangers. Voilà,
on reparlera justement de cette dérégulation du marché de l'information. En tout cas, un dessinateur de presse, par définition dans un journal, a la carte de presse et fait le même travail, du moins est assujetti aux mêmes obligations qu'un journaliste, à savoir donner une information vérifiée lorsqu'il s'amuse à parler du factuel avec cette liberté du dessin qu'on connaît bien.
Avec esprit critique et envie de se marrer aussi.
Bien sûr. Guillaume Douassy, quand est-ce que ça a émergé justement dans la presse française, le métier de dessinateur de presse, et comment il a évolué ?
Alors, on fait débuter le dessin de presse en 1830, mais en fait, la caricature, elle apparaît à l'époque de l'imprimerie, donc on est plutôt au début du XVIe siècle, une époque de grande tension politico-religieuse, et chaque camp, finalement, instrumentalise la caricature pour défendre ses idées et attaquer ses adversaires. Donc voilà, c'est quand même une longue histoire. Et pourquoi 1830 ? Parce qu'en 1830, on prend l'habitude d'associer le dessin satirique au journal. Voilà, toutes les semaines ou tous les jours, avec le quotidien Le Charivari qui est né en 1832, vous avez votre double discours satirique en texte et en image. Donc là, on a vraiment l'essence de ce qu'est le dessin de presse. Un lien très fort entre le média et puis le langage. Mais à l'époque, c'est quand même très marginal. C'est quelques journaux qui sont tirés à quelques milliers d'exemplaires. C'est tout. Le reste de la presse n'est pendant longtemps pas tellement illustré. Et l'âge d'or vraiment du dessin de presse, c'est la fin du 19e siècle, la Belle Époque, où là, on a des centaines de journaux et satiriques et des journaux quotidiens qui utilisent le travail des dessinateurs.
Alors, je demandais justement à Coco si elle se considérait comme artiste et journaliste. Elle a affirmé, bien sûr, journaliste. Néanmoins, au début, le dessin de presse, il me semble qu'il y avait une vision un peu artistique. C'était peut-être des artistes qui s'y employaient.
Alors, non seulement ce sont des artistes, alors c'est plutôt des artistes ratés, entre guillemets, puisque ils auraient bien aimé faire carrière dans les académies, voilà, avoir une reconnaissance officielle en exposant leur peinture. Bon, en général, ça marche pas bien, donc ils se réfugient dans le dessin de presse. Et c'est vrai que les dessins sont très travaillés, que ce soit à la lithographie ou avec d'autres procédés d'impression. On a une recherche esthétique, le travail de la couleur, le travail de la forme. Une légende qui est indispensable, mais en gros, le dessin, il est d'abord une apparence. Aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, on est plutôt dans la ligne claire, le dessin au trait, vite fait, bien fait, en général bien fait, même s'il y a un travail de réflexion, c'est l'idée qui va primer. Au 19e siècle, c'est pas tout à fait ça. Et donc, on a vraiment des dessinateurs, je dis dessinateurs parce qu'il y a très, très, très peu de dessinatrices, hélas, jusqu'aux années 1970, on reste dans un univers très masculin, mais il y a vraiment la volonté de faire une belle image, en même temps que éventuellement d'être extrêmement mordant et de se confronter à la censure, éventuellement au pouvoir ou à d'autres pressions possibles.
Alors on va parler peut-être même de censure avec Patrick Chapat, puisque vous m'offrez cette transition. Peut-être pour aller finir ce petit point de définition, Patrick Chapat, est-ce qu'il y a une différence entre un dessinateur de presse et un caricaturiste ? Est-ce que vous y voyez quelques lignes de frontières ou pour vous c'est à peu près la même chose ?
Bon, franchement, on utilise les deux mots pour désigner la même chose, même si la caricature, le portrait outré, c'est un sous-genre, enfin c'est un genre, une catégorie de ce qu'on met sous dessin de presse. Il y a de l'illustration, de la caricature, du dessin politique, c'est différentes catégories. Mais c'est vrai qu'on parlait de nos ancêtres, et Daumier, le grand-papa de tous les dessinateurs de presse, c'était un caricaturiste, mais quand même un commentateur de l'actualité. Et moi, j'ai envie de dire que le métier, symboliquement, est né avec le procès qui s'est ouvert le 14 novembre 1831. Philippon, qui était le complice et l'éditeur de Daumier, était traîné à la cour d'assises de Paris. Et puis là, devant les juges, il a sorti quatre croquis de sa poche. Le premier était le portrait de Louis-Philippe bien déformé, puis ça se transformait en quatre esquisses en poire. Et cette poire, elle est restée le symbole. Pour... Donc, il a été condamné, bien sûr. Il a fait de la prison. Domi aussi a fait un peu de prison. Ils sont ressortis. Ils ont recommencé à dessiner. Et donc, c'est vraiment ce combat pour la liberté. Et cette poire, elle est restée pour l'éternité le symbole de l'impertinence de la satire face au pouvoir. La poire, c'est un petit peu le symbole tutélaire de la profession, j'ai envie de dire.
Alors moi, je vous propose de passer de la poire à la grande pomme. Et donc aux États-Unis, que vous connaissez bien.
Quelle transition.
Ah voilà, c'est le travail. Voilà, je m'inspire de vous puisque vous avez travaillé au New York Times pendant très longtemps, justement, Patrick Chapat, et vous en avez fait un livre, Censure aux États-Unis, et vous nous parlez justement de ce climat et du dessin de presse et de la caricature menacée en ce moment. Quel est l'état d'esprit en ce moment aux États-Unis par rapport au métier de caricaturiste?
Waouh, c'est sombre aux États-Unis, hein, parce que non seulement on a fait ce livre avec Anne Telnes, vous avez parlé d'elle tout à l'heure,
oui.
C'est une grande dame du dessin de presse, hein, à souligner. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de dames, mais il y a une grande dame en France, c'est Coco, franchement. Mmh, c'est... Et puis aux États-Unis, on a Anne Telnes, qui est une figure très importante du métier. Elle a travaillé 17 ans au Washington Post. En janvier dernier, un dessin, une esquisse, est refusée par la rédaction. C'est la première fois que ça lui arrive. Pourquoi ? Parce qu'elle représente Jeff Bezos, qui non seulement est le milliardaire surpuissant qu'on connaît, mais qui est aussi propriétaire du journal, et il est en train de se prosterner devant Trump avec des paquets d'argent et avec ses amis de la tech. Ce qui, quand on y pense, n'est qu'une description de la réalité. Franchement, en janvier, ils ont tous défilé à Mar-a-Lago, ils ont tous offert de l'argent pour l'investiture. C'est un dessin informatif, quelque part.
Oui, évidemment, vous avez raison de le rappeler, parce qu'ils ont chacun donné $1 million, comme la coutume peut le permet, pour financer cette cérémonie d'investiture. Et donc, c'est un élément factuel. Tous ces patrons de la
tech. Ils étaient tous là.
Ils étaient tous là, effectivement.
Ils étaient tous là. Et donc, Anne, par sa démission, a fait un geste de principe retentissant, alors que le journal, qui est quand même le journal du Watergate, qui a un devoir par rapport à sa propre histoire et par rapport à la presse en général, le journal renie ses principes. Anne Telnes a fait preuve de courage alors que le journal avait peur. Et donc, pour parler des États-Unis, s'il y a un mot qui doit résumer le sentiment qu'on en a, j'en reviens, j'ai passé un mois et j'ai fait un reportage dessiné dans Le Temps sur ceux qui résistent, c'est la peur. Et c'est frappant de voir que la peur, on la retrouve dans les médias, dans les universités, dans le monde scientifique, dans la population. Il y a des gens aux États-Unis, j'ai gardé des amis puisque, pour y avoir vécu plusieurs fois, qui disent qu'ils ne partagent plus mes dessins par prudence. Donc, quand la peur s'installe, la censure n'est même pas nécessaire. L'autocensure fait le boulot à sa place. Et en fait, le Washington Post s'est autocensuré.
Le Washington Post s'est autocensuré. Coco, quel regard vous portez sur cette situation américaine vue d'ici, vue de France, lorsqu'on entend les propos forts de Patrick Chapat qui a vécu?
Bien sûr, il y a cette affaire Telnes où je pense qu'elle a vraiment eu beaucoup de courage et de cran pour démissionner après ça. Ce qui m'a marqué là-dedans, et je l'ai lu dans le livre que Patrick Chapat a fait avec Anne, c'est qu'au début, la rédaction a dit « Mais non, on t'a pas censuré le dessin, il y avait déjà un article plus ou moins qui disait la même chose. » Or, c'était pas vrai. Là encore, il y a une espèce de trouille, un truc non assumé, comme par exemple cette affaire qui a fait qu'il n'y a plus de dessins au New York Times en 2019, après la publication d'un dessin. Alors, quoi qu'on pense du dessin, peu importe, mais la rédaction...
C'est une caricature représentant Benjamin Netanyahu en chien tenu en laisse par Donald Trump,
il me semble. Oui, voilà. Donc, cette affaire-là, elle est aussi très parlante, je trouve, quand la rédaction du New York Times choisit de publier ce dessin, puis rétropédale ensuite devant le tollé sur les réseaux sociaux, c'est pas courageux, et ensuite tellement pas courageuse, dit on arrête le dessin de presse, c'est trop d'emmerde, trop de risques, on n'a pas envie de débattre. Enfin, c'est vraiment le pire qui puisse arriver dans une démocratie, quoi. Voilà, moi je suis toujours consternée par ce type d'affaires, d'autant plus que nous en France on a une chance immense. On entendait tout à l'heure Charb qui en parlait. On a une liberté énorme en France, il faut l'utiliser le plus possible, mais oui, quand on a la chance de pouvoir le faire, faisons-le. Et puis, pour le reste, il ne faudrait jamais pouvoir céder aux pressions des réseaux sociaux. Et quand on fait un dessin de presse, on l'assume et les rédactions doivent l'assumer avec nous quand elles le choisissent.
Mais vous mettez ça sur la pression des réseaux sociaux, en partie?
Bah non, bah là aussi, c'est les rédactions qui n'ont pas assumé. C'est presque un choix. Le choix de publier ce dessin et ensuite de rétro-pédaler, c'était presque comme un prétexte tout trouvé pour dire on arrête un truc qui nous emmerde. Enfin, pour le dire un peu clairement.
C'était en 2019 et vous en avez directement souffert, Patrick Chapat.
Oui, absolument. Pour préciser, donc, moi, j'étais collaborateur du journal, le New York Times. Pendant presque 20 ans, j'avais commencé au International Herald Tribune où je les avais convaincus d'ouvrir cet espace de liberté qu'est le dessin de presse. Il faut dire que chaque dessinateur, dessinatrice qui est viré ou qui part, c'est un espace de liberté qui se ferme. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc on faisait du progrès dans ce journal, le New York Times, qui n'avait pas une grande tradition. Et c'est un dessin d'un collègue qui a été reproduit. C'était pas moi ce jour-là. C'est ironique parce que moi j'étais à New York pour recevoir un prix pour le New York Times. Mais la personne qui a choisi ce dessin, qui a choisi de le publier, a toujours son job au New York Times, étonnamment. Et c'est vrai que face aux pressions, le journal a fait quoi ? Il s'est excusé une fois, deux fois. Et ça, c'est jamais une bonne méthode.
Non, oui.
Il a essayé de faire du damage control, comme on dit. Puis finalement, il a pris l'option la plus radicale. Il a introduit le principe de précaution appliqué à l'humour. Donc là, il s'est dit, puisqu'on a un problème avec ce type de contenu, c'est plus simple. Finalement, la manière la plus simple de gérer le dessin de presse, c'est de ne pas en avoir du tout. Parce qu'évidemment, on va s'éviter les emmerdes, les réactions. Donc ça, c'est de la censure préventive que le New York Times a inventé. Et puis, 6 ans plus tard, le Washington Post introduit autre chose, c'est l'obéissance par avance. C'est-à-dire qu'on a obéi par anticipation à ce qui serait perçu comme les ordres venant d'en haut, soit du propriétaire, soit même de Donald Trump.
Voilà, et on remarque que c'est donc deux cas, et chacun des deux cas renvoie à un mandat de Donald Trump, hein, 2019 dans le premier cas, et 2025 dans le deuxième. Je ne sais pas si cette corrélation est pertinente, mais c'est important à préciser. Néanmoins, là j'en appelle à l'historien Guillaume Doisy, ce contexte qu'on vient d'entendre aux États-Unis, est-ce que c'est inédit dans l'histoire du dessin de presse qui est un regain de la censure ? J'imagine que non, parce que ça date une vieille histoire. Censure, autocensure avec le dessin de presse. Néanmoins, est-ce que cette époque qu'on est en train de vivre vous rappelle une époque précédente ? Quelles leçons on peut en tirer ?
C'est difficile de tirer des leçons entre aujourd'hui et le passé, parce que les conditions actuelles, avec cette hypermondialisation et des tensions très rapides qui s'expriment, des pressions très rapides, elles font que ce contexte, il est totalement différent de ce qu'on connaissait avant. Même si on a une mondialisation du dessin de presse à la fin du 19e siècle, les enjeux restent relativement locaux et relativement nationaux. Donc on n'a pas trop ce choc, finalement, international qui date des années 1980-90 avec la télé satellitaire et puis après l'Internet. Par contre, évidemment, les questions de liberté d'expression, elles se posent. Et en France, par exemple, en juillet 1881, on a une grande loi sur la liberté de la presse qu'on présente en général comme totalement fondatrice de notre liberté actuelle,
toujours,
de ce qu'il
oui.
en reste. Il faut quand même se rappeler que déjà à l'époque, il y avait des pressions. Déjà à l'époque, il y avait des phénomènes de censure qui ne disaient pas leur nom, avec notamment des saisies de journaux totalement illégales de la part de l'institution policière, notamment. Et puis, on a quand même plusieurs dessinateurs de presse entre 1880 et 1914 qui ont fait de la prison en France pour avoir visé l'armée. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge d'or de la liberté d'expression. À toutes les époques, il y a un potentiel et il y a en fait une espèce de bras de fer entre ceux et celles qui veulent s'exprimer et puis partout des réactions, que ce soit dans la rue, parce qu'il y a aussi des réactions dans la rue, de l'action directe parfois contre des vendeurs de journaux, contre eux aussi des rédactions qui vont avoir leurs vitres brisées. Mmh. Et puis des discours. Quand vous regardez, par exemple, un journal catholique qui s'appelle L'Univers dans les années 1870, tous les deux ou trois jours, c'est un quotidien, il y a des articles pour dénoncer l'outrance des caricatures qui visent l'Église, mais non seulement en France, mais en Europe. Ils sont, outrés par ce flot d'images. Et d'un autre côté, les catholiques vont utiliser aussi ces images. Donc, sans problème.
Donc on voit qu'effectivement les tensions sont inhérentes même à ce métier, à votre métier. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un dessin est réussi, j'imagine. C'est quand ce qui provoque aussi des réactions.
Ben oui, parce qu'en fait, si tout va bien, on n'a pas de dessin de presse à faire. On est là quand même dans l'idée de critiquer, dénoncer, de bousculer, et puis d'être dans un état d'esprit critique, quoi. Et quand on est dans un journal satirique, qui plus est, voilà, c'est ce qui fait aussi la force de ces dessins-là. On prend pas de gants. On traite tous les sujets qu'il y a à traiter, que ce soit l'intolérance religieuse, que ce soit contre des actions politiques diverses, variées, ou que ce soit sur des conflits géopolitiques, ou je sais pas, le viol, par exemple, les viols du Hamas, les violences faites aux femmes, c'est des sujets qui sont quand même assez graves, parfois lourds, et par le rire, par le dessin, on questionne, on analyse, et puis on s'en sort aussi avec des dessins qui soit amènent à une réflexion, soit à du rire, soit à les deux, si c'est possible. Ouais. Donc le but, c'est ça, c'est aussi de s'élever et puis de partager quand même aussi des informations, des analyses. C'est vrai que le dessin d'Antelnaes illustre vraiment une situation qui est réelle. Nous, on interprète le réel aussi. C'est un peu le propre du dessinateur, même quand il est en reportage. On l'interprète, on le dessine, on le donne à voir, et puis on essaye de comprendre aussi parfois quand il y a des choses qui sont très compliquées, de synthétiser ça. Guillaume le disait tout à l'heure, en quelques traits, un dessin, une ligne, une idée. Alors parfois, je vais juste rajouter que parfois on se fait chier aussi à faire des doubles pages et des dessins de procès. Complexe. On est amené aussi à composer des pages dans des doubles, des colonnes, où là ça demande pas mal d'idées et un travail plus précis. Mais c'est vrai que notre travail est vraiment riche, et à la fin, ça doit être toujours le rire et la réflexion qui l'emporte.
Guillaume Doisy, justement, on parlait de dessins de procès, c'est une spécificité aussi, puisque les dessins de presse sont autorisés à l'inverse des photos, donc on voit que c'est un genre aussi en soi.
Oui, alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on s'interdit la photo. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose, sauf qu'évidemment avec le dessin, on exprime des choses qu'on n'exprime pas avec la photo. On peut insister sur certains aspects psychologiques, mais la photo aussi peut avoir des intentions.
Oui, il y a des photographes à l'après, entre les audiences, il y a quand même des photos.
Il y a quand même des photos, mais il en reste pas moins que le dessin de presse dans le procès est encore aujourd'hui quelque chose qui marque aussi la spécificité du genre, ou dans la presse, c'est ce qu'on voit, et c'est à des rares moments justement où ce dessin est vraiment mis en valeur.
Oui, alors bon, ça reste quand même très marginal par rapport au dessin éditorial. Moi, si vous me permettez, j'avais envie de revenir à Daumier, grand-papa, selon Patrick Chapat, et pour discuter de la liberté d'expression, parce que c'est quand même pas un principe si général que ça. Et quand on regarde Daumier entre 1830 et 1835, il se bat contre le pouvoir, contre Louis-Philippe, en effet, avec la fameuse poire. Quelques années après, 1848, alors que Daumier subit la censure depuis 1835, il y a la Deuxième République et finalement ses amis politiques sont au pouvoir. Et donc il dessine quoi? Il dessine qui? Il critique qui? Eh bien, il critique plus le pouvoir. Il critique les femmes qui réclament le droit de vote, qui réclament le droit au divorce,
etc. Ah bah d'accord.
Et il les représente. Non mais il les représente comme des furies alcooliques, etc. Donc, et il critique les socialistes, il critique donc les gens qui défendent en gros les classes populaires. Et il va y avoir les journées de juin, en juin 1848, plusieurs milliers de chômeurs sont tués à Paris, c'est la répression, pas un dessin sur ce sujet. Donc Daumier, qui exerce sa liberté d'expression, en même temps, il a un point de vue très situé, et il faut toujours avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on défend un point de vue, on a une certaine position dans la société, et qui fait que... elle est où, la liberté d'expression? Elle est pour Daumier, mais elle n'est pas pour les petites gens, les femmes, etc., qui n'avaient pas accès à ces moyens.
Ce qui est intéressant à vous entendre, Guillaume Doisy, c'est qu'on peut avoir l'impression aujourd'hui que le dessin de presse a une sensibilité politique peut-être plus de gauche, ou du moins on peut avoir cette impression-là. Or, dans l'histoire, il y a eu des dessins de presse qui ont occupé, je dirais, tous les échiquiers politiques.
Alors absolument, mais même Daumier, qui est censé être de gauche, il peut être très conservateur d'un point de vue moral. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des dessinateurs d'extrême droite, mais ils sont en embuscade, ils ne peuvent pas trop s'exprimer du fait de la loi Guesso notamment, les lois contre le racisme, l'antisémitisme. Mais demain, pourquoi pas, hein, demain, on va peut-être connaître un renouveau du dessin de presse en France et peut-être ailleurs, parce que ces lois, pourquoi pas, elles seraient supprimées, elles sauteraient. Et alors, depuis quelques années, depuis un certain nombre d'années où le RN cherche cherchent quand même
à se normaliser.
Ils n'ont pas du tout recours à ces dessins, mais historiquement, l'extrême droite a beaucoup utilisé la caricature. Je parlais des catholiques tout à l'heure. L'affaire Dreyfus, de très grands noms du dessin de presse, Forain et Carandash, étaient antisémites, anti-Dreyfusards. Et voilà, ils avaient une reconnaissance, même institutionnelle, qui était très grande.
Patrick Chapat, vous souhaitiez réagir ?
Oui, sur plusieurs choses. La face sombre de Daumier que vous citez n'enlève rien au combat fondamental, que, en l'occurrence, qui impliquait Philippon dans ce fameux procès. Ils ont vraiment dessiné les contours de la liberté du dessin. Et il y a eu cet aller-retour pendant tout le 19e siècle entre la censure préalable des dessins supprimée puis rétablie 1822, 1830, 35, 48, 52, bref, jusqu'en 1881. Et puis ensuite, Daumier a en effet évolué vers du dessin de société, où je vois aussi, on voit énormément de dessins qui critiquent les bourgeois qui sont ces mêmes lecteurs. Enfin, il y a vraiment un regard sur toute la société et sur la France elle-même profondément qui est pas seulement celui que vous dites. Je pense qu'il était vraiment un redoutable caricaturiste de toute son époque. Mais j'ai envie de revenir au tableau que vous dressiez de la liberté d'expression, de sa relativité. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, hein, pour faire la boucle, c'est pas très original. C'est malheureusement, je suis membre de ce réseau Cartooning for Peace qui réunit beaucoup de dessinateurs dans le monde. Je suis aussi président d'une fondation Freedom Cartoonist à Genève et qui reconnaît tous les deux ans avec un prix international des dessinateurs dans le monde entier pour leur courage. Et nos lauréats, par exemple, ont inclus un dessinateur de Hongrie, Gábor Papay, il y a 4 ans. Et Gábor Papay, il nous avertit, donc lui, dans la Hongrie de Viktor Orban, qui est soi-disant toujours une démocratie, lui, il travaille pour un des derniers journaux d'opposition, il est traité de cafard à la télévision publique et il est en procès. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays qui dérivent vers l'autocratie. On ne parle même pas des autocraties pures, il n'y a pas de dessinateur de presse en Chine, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Mais dans des pays qui sont illibéraux, ce n'est pas Viktor Orban qui va prendre son téléphone et qui va demander qu'on censure. Ça se passe toujours de manière indirecte, comme je le disais avant, par l'anticipation des gens qui sont au service du pouvoir, par la peur. Et donc, Gábor Papay, il nous avertissait, ce qu'on voit en Hongrie aujourd'hui, vous allez le voir demain aux États-Unis, il disait ça avant l'élection, si vous élisez un Trump, et après-demain en France, si vous élisez une Marine Le Pen. C'est une glissade qu'on a vue partout dans les pays qui glissent vers l'autoritarisme. Et ça, on le voit maintenant aujourd'hui aux États-Unis. Ça, il ne s'agit pas que du dessin de presse. On a vu les humoristes de télévision l'émission de Stephen Colbert qui va être supprimée.
Les différentes late shows, effectivement, où on voit que la liberté est totalement brimée. Mais j'aimerais juste, parce que c'est très intéressant, ces allers-retours dans l'histoire et dans les voyages, la spécificité quand même de notre temps depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est monté en puissance, et les réseaux sociaux que vous avez évoqués, les uns et les autres, qui procurent ou qui provoquent une forme de décontextualisation. Et ça change sans doute tout. C'est-à-dire que lorsqu'un dessin est installé dans un contexte d'énonciation qui est un journal et que celui-ci s'en vient à être projeté sur un réseau social sans mise en contexte et surtout à la face du monde, ça change complètement le rapport de la perception. D'ailleurs, vous le dites, Guillaume Douazy, la caricature utilise un langage qui n'est pas capable d'empathie. Dès qu'il passe à la représentation graphique, les ambiguïtés surgissent. C'est-à-dire que l'empathie est difficile, surtout lorsqu'on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, puisqu'on sort du cadre et du pacte que l'on peut avoir avec les lecteurs.
En fait, là, il y a deux questions. Il y a le langage outré qu'utilise le dessinateur ou la dessinatrice et il y a la résonance mondiale et la circulation. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est pas la circulation internationale qui provoque les frictions, les crises autour de la caricature. Quand on regarde 2005-2006, l'affaire des caricatures de Mahomet, il s'est quand même passé 5 mois plein entre la publication du Jyllands-Posten au Danemark et les réactions internationales d'un certain nombre de pays où la réaction était extrêmement instrumentalisée, préparée, coordonnée. Donc 5 mois. Or, pendant ces 5 mois, ces dessins étaient pour certains sur les réseaux sociaux.
J'en profite pour dire qu'en 2005, c'est l'arrivée tout juste de Facebook. C'est-à-dire que 2005, c'est Facebook, Instagram n'existe pas, Twitter non plus, ça arrive en 2007. C'est-à-dire que 2005, on est au berceau, vraiment, de l'arrivée des réseaux sociaux.
Ok. Mais souvent, rétrospectivement, on dit c'est à cause d'Internet qu'il y a eu la crise de 2005. Moi, je ne pense pas. Elle a pu, Internet a pu servir par moment hein, pour alimenter la contestation, mais finalement, c'est resté très maîtrisé. C'est passé par les médias plutôt traditionnels et surtout par les canaux officiels, notamment dans les pays où la liberté elle est restreinte. Mais quand on a vu dans les années qui ont suivi des réactions et des tensions autour de dessins, par exemple un dessin de Cabu qui a fait polémique au Japon, les réactions, en fait, elles ont été le produit de discours sur les dessins qui sont parus dans la presse traditionnelle.
Vous nuancez, en fait, l'impact des réseaux sociaux.
Et oui, parce qu'il y a la langue. Comment accéder à un dessin français quand on est japonais? Bon, la langue fait qu'il y a des barrières, il y a plein de barrières culturelles. Et en fait, les tensions autour de la caricature, c'est principalement des instrumentalisations intéressées politisé de discours sur la caricature de l'autre, sur la caricature produite dans un autre pays, et souvent il y a du nationalisme derrière. Hein. Charlie Hebdo avait publié des dessins sur un tremblement de terre en Italie, des dessins assez drôles, mais en fait, l'émotion du drame en Italie a été utilisée et amplifiée par justement les politiciens locaux qui ont dit mais regardez en France, ces salopards de Charlie alors que nous on vit, on pleure nos morts, regardez ce qu'ils font. Donc voilà, on voit bien l'instrumentalisation.
Et c'était caché le fait justement que les maisons d'Amatrice étaient construites sur des terrains sableux et que l'Italie est sur des plaques tectoniques et que ça déplaçait le problème vers les dessins. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites Guillaume Doisy.
Alors justement sur les réseaux sociaux, on voit Guillaume Doisy nuance leur impact, et puis parfois cet impact peut être positif, c'est le cas avec l'un de vos dessins qui est dans ce livre signé Coco, celui du drapeau américain que vous détournez, où les lignes rouges deviennent des lignes de sang pour dénoncer le droit à l'avortement qui est remis en question aux États-Unis. Ce dessin, il a fait le tour du monde, il est allé jusqu'aux États-Unis et la population s'en est emparée, c'est sans doute grâce à ces réseaux qui ont amplifié finalement l'exposition de votre dessin.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas du tout une anti-réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des choses à redire. Il y a des dérives, il y a des menaces, il y a des tas de trucs nazes qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais à la base, c'est quand même un outil de communication, de diffusion, d'échange, de partage qui est dans le monde entier. Ça se fait en deux secondes. C'est quand même assez prodigieux. Et c'est vrai que... Pour parler de ce dessin, c'est un dessin déjà qui est muet. Donc c'est vrai qu'il peut traverser les frontières hors traduction de texte. J'ai fait quelque chose que je fais rarement et qu'on n'aime pas trop en général à Charlie, c'est de faire du dessin symbolique. Quand il y a eu cette décision de la Cour suprême de revenir sur ce droit à l'avortement dans plusieurs États, déjà en tant que femme, ça m'a touchée. Ça touche aussi des dessinateurs, mais voilà, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et voilà, j'ai repris le symbole du sein c'est le symbole de l'avortement illégal et dangereux pour la santé des femmes.
Donc là, le centre remplace les étoiles qui sont normalement présentes sur le drapeau américain et qui sont censées pointer les différents États. États-Unis.
Et les femmes rampent, quand on pratique une IVG déjà dans de bonnes conditions, on perd beaucoup de sang en fait. Le corps humain est tel que on perd beaucoup de sang. Et là, j'imaginais ce que ça allait pouvoir devenir cette souffrance de femme. Donc c'est vrai que ça a résonné particulièrement jusqu'aux États-Unis où des femmes l'ont brandi dans des manifs et ça fait plaisir parce que généralement quand on entend parler de dessins de presse qui font parler, qui dépassent les frontières, c'est plutôt dans des mauvaises interprétations, ce qu'on appelle des shitstorms, ce qu'on appelle des menaces. Quand il y a des choses comme ça qui se passent de positives, ça a été le cas aussi sur des dessins qu'on a pu faire après la mort de Mahsa Amini en Iran. Il y a des mouvements comme ça où pour défendre une liberté, notamment, là, les gens peuvent s'emparer des dessins qui en sont le symbole, tout simplement.
Voilà, comment votre dessin de drapeau est devenu un étendard repris de la contestation contre ce droit à l'avortement menacé.
France Culture.
Pour faire une caricature, il faut faire tout de suite ce qu'il y a de plus grand chez la personne.
La fabrique de l'information.
C'est Dorothée dans 20 ans quand elle aura remangé le gâteau.
François Celtiel.
Voilà, ça fait rire Coco, cette image de Dorothée, ouais. Ce voyage dans le temps. Et oui, on voyage dans le temps depuis ce début de cette émission qui est consacrée aux dessinateurs de presse avec un historien dont c'est le métier de voyager entre les siècles, Guillaume Doisy, avec un voyage vers la Suisse et notamment Patrick Chapat qui est avec nous en compagnie de Coco et de Daniel Bastard qui est chroniqueur à Courrier International, courrier qui fait une part belle aussi aux dessinateurs de presse et aux dessins de presse. Vous les reprenez dans les différentes publications que vous voyez, que vous traduisez bien sûr de manière hebdomadaire. Et aujourd'hui, Daniel, vous allez nous parler d'un cas concret en nous emmenant, voilà, encore on va voyager, en Turquie pour prolonger notre thématique du jour.
Oui, nous sommes le 30 juin dernier, avenue Istiklal à Istanbul. 10 ans après la tuerie de Charlie Hebdo, à un peu plus de 2000 km de Paris, on réclame la mort de dessinateurs et de journalistes pour, je vous le donne en mille, avoir prétendument représenté le prophète Mahomet. L'histoire bégaye de façon décidément bien triste. Et cette fois, c'est la rédaction du magazine satirique turc Leman qui a été visée par une foule d'excités, laquelle s'est réunie devant les locaux du magazine en appelant au meurtre au nom d'une improbable charia pour le moins expéditive. La cause de cette colère d'opérette, un dessin a priori parfaitement inoffensif dans la lignée des appels à la paix au Proche-Orient. Signé Doğan Perlevan, il montre une ville en proie aux flammes et aux bombardements, au-dessus de laquelle on trouve deux personnages qui se serrent la main. « Salam alaikum, je m'appelle Mohamed », dit l'un. « Aleichem shalom, moi c'est Moïse », répond l'autre. Voilà, ça ne va pas plus loin. Et pourtant, il n'en fallait pas plus pour hérisser la presse islamiste de Turquie. Ils insultent notre saint prophète, s'est ainsi indigné le quotidien Sabah, soutien affiché du gouvernement. Lequel quotidien n'a du reste pas eu grand-chose à faire pour ajouter de l'huile sur le feu. Il lui a suffi de citer le ministre turc de la justice. Aucune liberté ne peut permettre que l'on se moque des valeurs sacrées d'une croyance. Alors, il a fallu expliquer le dessin, ce qui n'est jamais très bon signe.
Alors, comment le journal a-t-il répondu à ces appels au meurtre ?
Eh bien, Leman a eu beau publier un communiqué expliquant qu'il entendait simplement souligner l'horreur de la guerre en cours dans la bande de Gaza, qu'il n'y a pas de référence au prophète Mahomet, que 200 millions de musulmans portent le nom de Mohamed dans le monde, que le Mohamed dont il est question dans ce dessin est représenté comme une victime des bombardements israéliens. Rien n'y a fait. Les mouvements rigoristes se sont fait un plaisir de surfer sur cette question de la représentation du prophète de l'islam qu'ils voudraient interdire. Mais le plus alarmant, c'est que l'auteur du dessin, ainsi que 5 membres de l'équipe de Leman, ont été jetés en prison pour cette affaire. Le ministre de l'Intérieur turc a même relayé une vidéo de la police où l'on voit le rédacteur en chef de la revue plaqué au sol comme le pire des terroristes et traîné pieds nus dans la rue. Le motif officiel, incitation à la haine, ce qui est tout de même un sacré exploit pour un dessin qui appelait précisément à la paix. Il a fallu attendre 2 mois pour que les 5 journalistes soient libérés. Quant à Doğan Perlevan, qui a signé le dessin, il n'a été remis en liberté que le 17 novembre, soit 5 mois de cachot, et tous devront passer devant le juge on ne sait quand. Tout cela pour 2 bonhommes qui se serrent la main. Cette affaire montre à quel point le dessin de presse est plus que jamais un sport de combat, a fortiori dans un pays comme la Turquie, dont la société est labourée par le populisme islamisant d'Erdogan, mais dont une partie reste intimement attachée à la laïcité et à la liberté d'expression.
Et c'est précisément ce qui a fait de cette affaire Leman un symbole.
Oui, Leman, c'est vraiment le dernier journal satirique en Turquie. Son équipe était du reste très proche de l'ancienne rédaction de Charlie Hebdo, dont il republie volontiers les caricatures. Or, Leman est aujourd'hui dans une situation économique précaire. Et tout porte à croire que ce harcèlement judiciaire dont son équipe est l'objet vise à l'anéantir une bonne fois pour toutes. Il y a un précédent. En 2017, son principal concurrent, le magazine Penguin, avait déjà dû jeter l'éponge. Et ce que révèle cette affaire, c'est à quel point la caricature est aujourd'hui l'objet d'instrumentalisation. On en a parlé. La question n'est même plus de savoir ce qui est représenté, mais comment le message sera manipulé. On touche là à un enjeu auquel, à Courrier International, nous sommes très sensibles. C'est la dimension transculturelle d'un dessin et de l'humour. La quasi-totalité des couvertures du journal sont des dessins, certains franchement humoristiques, d'autres plus graphiques. Mais il y a toujours un équilibre ténu à trouver entre, d'une part, la dimension grinçante, percutante, dérangeante que doit avoir le dessin, et d'autre part, la nécessaire prise en compte du fait que ce dessin pourra être repris sur les réseaux, réinterprété, instrumentalisé par n'importe qui. Et évidemment, c'est à chaque fois un arbitrage absolument vertigineux.
Merci beaucoup, Daniel. Une chronique à retrouver, bien sûr, sur le site de Radio France. Et puis, Courrier International en kiosque depuis hier, comme chaque semaine, avec son dessin donc, qui ont fait sa couverture et sa une. Patrick Chapat, peut-être une réaction par rapport à la chronique de Daniel de Courrier International.
Non, mais je retiens le mot vertigineux et la discussion qui précède, parce que c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux, Internet a ouvert complètement le monde. On vit dans un monde ouvert avec des esprits fermés. Et vraiment, l'affaire des caricatures de Mahomet, on l'a dit, est née dans les tout débuts des réseaux sociaux. Si ça avait été 10 ans plus tard, on peut bien imaginer que ça aurait été décuplé, l'effet et la rapidité du phénomène. Et oui, très souvent, il y a une instrumentalisation politique, que ce soit du fait religieux, que ce soit même de la question politique. J'ai fait l'objet une ou deux fois de tempête, de shitstorm, pour dire un gros mot. Une fois, un dessin qui est paru dans le Spiegel et qui mettait en scène la Chine et l'Inde.
En Allemagne, donc.
Le Spiegel, qui est un magazine allemand. Et je fais un dessin que je croyais très innocent. C'est pour vous dire qu'on n'est pas toujours en train de se dire « Ouh là là, ça va faire mal, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, c'était un dessin très innocent qui montrait la population indienne qui dépassait la population chinoise. Et j'avais illustré ça avec deux trains. On fait du dessin à la radio, hein, c'est génial. J'essaie, mais
enfin... C'est un concept.
Si vous tapez Google train Inde, vous savez ce que vous allez voir comme image. Vous allez voir un de ces trains surbondés. C'est très folklorique, c'est une image un peu cliché, mais qui est encore très vraie dans beaucoup de parties de l'Inde. Donc j'ai fait ce train surbondé avec des gens sur le toit, des gens aux fenêtres, etc., qui dépassait allègrement un TGV chinois, complètement sombre et triste. Néanmoins, ce sont les Indiens qui se sont formalisés, et la mèche a été allumée par un assistant du ministre de la Communication. Il a dit que c'était un dessin raciste par des Allemands et qui voulait rabaisser l'Inde et ses progrès en matière ferroviaire. Et ça a complètement allumé la mèche des soutiens de Modi. Donc on a un gouvernement nationaliste qui a toujours besoin de donner du combustible à ses followers. Donc ça a été monstrueux. Ça a duré 2 semaines. En général, un shitstorm dure 1 semaine. Je peux vous dire, 2 semaines, c'est long. Le journal a fait le dos rond. Il a même supprimé mon dessin de Facebook. Donc il a fait plus que le dos rond. Il a aussi un peu reculé. Après, ils m'ont dit que c'était une erreur, que ce n'était pas voulu. Ils se sont fait traiter, comme c'est un journal allemand, vous imaginez le principe de Godwin, ils se sont fait traiter de nazis. J'ai eu droit sur mes réseaux sociaux à une pluie d'images et de messages. C'était dans les médias aussi, non seulement indiens, dans toute l'Inde, mais les médias internationaux. Et puis alors, pour couronner le tout, un petit malin très vite a vu que non seulement... Parce que d'abord, j'étais un dessinateur nazi, hein, supposément allemand. Après, ils ont découvert que j'étais né au Pakistan. Alors, je ne sais pas si vous imaginez.
Ah, voilà, ça n'allait pas aider. Ça n'allait pas aider, là, bien sûr.
Ah, gros souci. Alors là, on est passé dans l'autre dimension. Donc, voilà un shitstorm global alimenté par le nationalisme et avec une utilisation du pouvoir. Qui illustre un peu tous les points dont on a discuté avant.
Oui, c'est ça, Guillaume Douazy, on voit bien qu'avec ce cas de train, à la fois, c'est les nouvelles autoroutes de l'information qui sont les réseaux sociaux, qui vont que sa réception est donc différente par rapport aux sensibilités et la manière dont on regarde ce dessin. Donc c'était aussi quand même peut-être l'incarnation de cette décontextualisation dont on parlait tout à l'heure, et bien sûr la récupération politique.
Oui, je crois que c'est quand même d'abord la récupération politique, parce qu'une fois de plus, si les dirigeants n'avaient pas évoqué ce dessin, les foules sur leurs réseaux sociaux n'en auraient jamais entendu parler. Donc on a bien quand même cette difficulté de l'accès aux dessins des autres, à ce web mondial dans lequel, qui produit chaque jour des millions d'images. Donc c'est quand même très compliqué.
Coco, quand vous faites un dessin, est-ce que j'imagine qu'il faut ne pas penser totalement à sa réception. Quel est le niveau que l'on prend entre, à la fois, j'imagine, cette liberté de ne pas trop y penser pour pouvoir garder avec le trait souple et s'autoriser des choses, et en même temps, peut-être, d'avoir conscience qu'il peut heurter, choquer à d'autres endroits et qu'à un moment donné, il va nous échapper.
Non, c'est vrai que je ne pense pas du tout à la réception, non, pas tellement, en fait. Je ne pense pas aux gens qui se diront peut-être offensés ou quoi. Parce que c'est vrai que le faire, j'ai l'impression que ça saturait toute possibilité que j'ai de m'exprimer tant chaque personne a son degré de sensibilité à tout. Moi, mon but, c'est de critiquer des idées, c'est d'essayer de me marrer. Et c'est vrai que non, j'essaye de ne pas y penser. Et je vous dis ça quand même, parce que... Mais quand ça arrive, quand il y a vraiment beaucoup de réactions, on est un peu comme... c'est très chronophage, ces machins-là. C'est un peu piégeux sur les réseaux sociaux de voir les réactions qui se font. On se sent un peu obligé de voir un peu, de sentir un peu le pouls, on va dire, de tout ça. Voir un peu comment on s'est réceptionné. Et souvent, ça peut être instrumental instrumentalisé. Parfois, les gens comprennent n'importe comment. Parfois, les gens veulent lire que ce qu'ils ont envie de lire. Ça peut être vraiment très variable, en fait. Non, j'essaye de pas penser à ça parce que ça... C'est un espèce de vortex qui nuit à ma création. Ouais.
Guillaume Doisy, est-ce qu'on peut parler d'une désaffection ? Je l'avais cité dans le chapeau de cette émission par rapport au métier. On voit qu'il y a de moins en moins de caricaturistes qui sont employés en CDI, vraiment, de manière structurelle au sein des journaux. Quel regard, quelles données on a même de la vision des jeunes générations par rapport à ce genre-là ?
Alors, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Depuis quand même une quarantaine d'années, il y a de moins en moins de dessinateurs embauchés, salariés, et de plus en plus le recours à ce qu'on appelle des syndicates, donc des dessins qui sont publiés en gros sur un site tous les jours, et le journal va faire son marché, va prendre celui qui va le plus correspondre à sa ligne éditoriale, à ses frilosités, etc. Donc ça, c'est un processus de transformation du métier qui est quand même sur le temps long. Maintenant, sur la question de la réception, on est aussi face à une désaffection sur le temps long. Pour la France, on a l'âge d'or de la Belle Époque. Et depuis, plutôt des reculs, beaucoup moins de journaux satiriques type Charlie Hebdo, même des périodes pendant lesquelles il n'y a plus de journaux satiriques. Et puis, la presse papier, qui est vraiment le support naturel du dessin de presse reculant, on a ce retrait. Mais ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a un recul culturel qui est un manque d'appétit, mais aussi une contestation. Voilà. Quand on fait des enquêtes, on voit que les jeunes générations seraient finalement en désaccord, en décalage avec ce moyen d'expression. Moi, je mets ça sur le compte d'une certaine langue spécifique du dessin de presse, le fait d'utiliser des métaphores, le fait d'utiliser de l'exagération et des stéréotypes. Et quand vous essayez de faire un dessin qui va être compris extrêmement rapidement, vous êtes obligé d'en passer par les stéréotypes.
Et aujourd'hui, on est dans la caricature, effectivement, pour essayer de faire comprendre très vite telle ou telle population ou genre, c'est toute la difficulté, j'imagine, et comme vous le dites, si pour être compris tout de suite, on va forcément dans une sorte de cliché, de stéréotype.
Absolument.
Je dirais d'appeler ça des codes, moi, des codes graphiques.
Mais qui peuvent être considérés comme des clichés, des stéréotypes.
Ouais, après, stéréotypes, non, parfois c'est un peu faux. Avant, par exemple, on dessinait les riches, gros, un cigare, tout ça, ce qui n'est plus du tout le cas. Les riches, maintenant, ils sont plutôt minces, ils mangent bien. Il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est plus les mêmes représentations, donc parfois, non, on n'est pas forcément dans le stéréotype. Ça dépend comment on mentionne ça dépend comment on fait fonctionner ça avec le texte. On peut trouver des trucs qui ne sont pas forcément dans le cliché graphique.
Je vais faire réagir Patrick Chabac dans un instant, mais qu'est-ce que vous en pensez, Coco, lorsqu'on entend Guillaume Doisy dire qu'il y a des jeunes générations qui n'ont peut-être pas les codes
pour... Oui, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, nous, on va dans les écoles par le biais d'une association qu'on a créée après 2015 qui s'appelle Dessine, Écrire, Liberté. On va rencontrer des étudiants et c'est vrai que parfois on entend cette musique de « Ah, la religion, faut respecter ». On entend souvent ça dans la bouche des gamins. Et ben, on leur dit que justement, respecter les croyances et pouvoir justement critiquer toutes les religions. Ça fait partie du débat démocratique et c'est justement le rendu qui a été dit après le procès des caricatures de Cabu, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par les cons. Ça faisait partie du jugement et ça vaut toujours pour aujourd'hui. Quand on leur dit qu'on critique des idées et quand on leur montre des dessins, quand on leur montre comment on fait un dessin, comment on réfléchit à partir d'une revue de presse, comment on les fait se caricaturer déjà entre eux, comment ensuite ils dessinent des politiques, ils arrivent beaucoup plus facilement à comprendre les dessous.
Mais
de
ça demande tout ce travail-là justement.
Bah, bien sûr, ça demande ça, mais il n'y a pas que nous aussi, les professeurs. On ne peut pas ne pas penser à Samuel Paty qui faisait ce boulot-là, à la fois d'historien, il parlait justement comme Guillaume le fait, du début du dessin de presse, notamment à la Révolution où il y a quand même une période qui est vraiment faste, jusqu'à aujourd'hui, Charlie, Le Canard, d'autres titres, et il allait graduellement montrer ce que c'est la caricature, et beaucoup de profs le font en France, ça fait partie de notre histoire et d'une culture qui est vraiment française.
Guillaume Doisy et juste après Patrick Chabat.
Oui, moi je ne crois pas que ce soit parce que les jeunes n'ont pas les codes. Je crois qu'il y a une espèce de paradoxe. La liberté d'expression avec le fait d'utiliser les codes dont tu parles. Bon, voilà, on peut parfois parler de stéréotypes qui évoluent de toute façon et le dessinateur ou la dessinatrice s'adapte. Et puis la démocratie dans laquelle on est qui exige un respect des personnes, un respect des personnes discriminées, des personnes minorisées, etc.
Ça,
et là, on a quand même une grosse contradiction puisque quand une dessinatrice veut représenter, par exemple, un dessin contre l'homophobie, je dis contre. Ou un dessin antiraciste, mais comment représenter une personne homosexuelle ? Eh bien, on va représenter une personne identifiée homme et féminée. Clac, on est dans le stéréotype. Une personne racisée...
Non, on ne fait pas ça.
Alors, moi, je regarde les dessins, et alors, pas toi, peut-être, mais y en a plein.
Non, mais c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question. Récemment, j'étais dans une rencontre de dessinateurs à Bâle, et il y a un type dans le public qui m'a demandé ça. Et c'est vrai que c'est très dur. On voit pas la sexualité des gens sur eux.
Bah oui.
Donc c'est pas possible d'en venir à des clichés pareils. Moi, je trouve ça justement discriminant de faire le type efféminé. Il faut essayer d'être suffisamment imaginatif. Enfin, moi, j'avais fait des dessins en passant par le biais des mantes religieuses, qui est un peu un code un peu graphique pour mettre les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Voilà.
Oui, mais tu évites la représentation du corps. Donc,
Bah oui, mais en même temps, comme notre métier est créatif, il faut être inventif, créatif, se surprendre, et pas forcément pas passer par ces genres de représentations que je trouve un petit peu bordel.
Et on rappelle aussi que parfois vous êtes limité, pris par le temps, hein, comme tous les journalistes, où il y a des dessinateurs qui doivent rendre un dessin par jour.
Ah bah, bien sûr,
exactement. Ouais. Et donc là, effectivement, parfois, c'est ce qui fait qu'on peut avoir recours à des clichés, c'est quand le temps aussi nous impose. Mais c'est pareil, donc, quand tu es une journaliste dans le texte, on va prendre des formules toutes faites, parce qu'à un moment donné, ça prend du temps d'essayer d'établir la nuance. Patrick Chapat.
Oui, moi j'ai envie de relativiser un tout petit peu le discours sur le dessin de presse déclinant, parce que c'est vrai que c'est une idée un petit peu répandue. En même temps, on a parlé d'Internet, les dessins n'ont jamais autant été vus et partagés, on n'a jamais eu un aussi grand public. On voit émerger des formes différentes hein, que les médias traditionnels. On voit qu'aux États-Unis, il y a un média comme Substack, qui est une sorte de réseau social participatif avec des gens qui s'abonnent à des... Anne Telnes, par exemple, aujourd'hui, gagne mieux sa vie qu'avec le Washington Post. Il y a des humoristes qui gagnent des sommes énormes sur Substack. Et puis, la satire politique va toujours trouver un chemin, que ce soit à travers le dessin de presse traditionnel ou pas. Elle a toujours trouvé un chemin. L'humour trouve toujours un chemin. C'est un peu comme l'eau. Il s'infiltre partout. Il y a des nouvelles formes aussi qu'on peut inventer. Moi, j'ai expérimenté quelque chose depuis l'an dernier. J'ai fait une tournée dans les théâtres. Alors, c'était seulement en Suisse pour l'instant. Et c'était un vrai spectacle autour du dessin de presse. Mmh. On a eu, à ma grande surprise, parce que franchement, c'était nouveau. Quoi. Je me jetais à l'eau dans quelque chose. On a eu des salles combles partout. Donc, on a eu 15 000 spectateurs. Et puis, j'ai eu des jeunes qui ont été... Dans certaines soirées, notamment, les lycées ont amené des classes. On s'est vus avant, ils ont préparé avec leurs profs, justement pour faire un petit travail d'éducation sur les questions de messages, de métaphores, de codes. Puis ensuite, ces jeunes, ce que j'ai trouvé formidable, je me souviens d'une soirée où ils ont mis 3 classes de lycée dans une salle de 500 places. Il y avait peut-être 100, 150 élèves dans les tout premiers rangs. Et donc, je voyais tous ces jeunes devant moi. Et à la fin, c'est eux qui ont lancé une standing ovation. Mmh. Et donc, souvent, j'ai envie de dire, oui, on dit beaucoup, c'est vrai que les jeunes n'ont pas accès au dessin de presse, mais en réalité, je ne crois pas qu'il y ait mal donne ou qu'il y ait un problème de communication. Il y a un petit problème d'éducation et de simplement atteindre ces jeunes.
Oui, si on le dit juste, Patrick Chapat, c'est là, encore une fois, c'est les chiffres. Et puis, vous avez même commencé votre intervention en parlant de ces journaux américains qui ont décidé, pour résoudre leurs problèmes, de se séparer ou de supprimer complètement les espaces au dessin de presse. Après, je pourrais faire appel à quelques chiffres. En 1978, on comptait 117 caricaturistes vivant exclusivement de leurs dessins dans les journaux. Et 50 ans après, ils ne sont plus qu'une vingtaine. Donc, on voit qu'il y a quand même des chiffres. Mais ça ne veut pas dire que le métier n'attire plus. D'ailleurs, peut-être que les formes sont assez nouvelles. On parlait des nouvelles technologies, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui est toujours pointée du doigt dans ce qu'elle pourrait remplacer ou pas les professions. Là, peut-être que le dessinateur, Coco, ou la dessinatrice, n'est pas tant menacée par l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas reproduire, justement, ce trait, cet humour, ce second degré. On sait que la machine n'est pas très bonne pour cela.
Ben, on se posait la question, oui, entre dessinateurs. Je me demandais avec mon collègue Foul si, par exemple, on donnait toute la banque d'images d'un dessinateur comme Villemin ou Willem, qui sont vraiment des dessinateurs forts, un peu trash, voilà, et très politisés, très, très féroces. Est-ce que l'intelligence artificielle arriverait à faire du Villemin ou du Willem, ou à faire des nouveaux dessins comme Villemin, Willem? Je suis persuadée que non, parce qu'on réagit vraiment trop dans l'émotion, dans la indignation à ce qui se passe et tout simplement l'IA est sans émotion. Je pense qu'elle arriverait à formuler un dessin graphiquement, comprendre comment ça fonctionne, peut-être mettre un décor, une bulle, mais je pense que ce serait très plat, puisque en fait, nous, ce qu'on met derrière, c'est de l'humour et beaucoup de sensibilité. On aurait tendance à penser d'ailleurs que les dessinateurs de presse parfois sont insensibles, tellement on se marre un peu sur tout, la mort, les trucs comme ça, mais si, justement, c'est parce qu'on est très sensible à tout ça qu'on arrive aussi à dépasser, rendre compte, partager là-dessus.
Mais c'est vrai que justement, par rapport au...
Je déteste l'IA d'ailleurs.
Vous détestez...
les IA.
Voilà, on peut le voir justement dans certains de vos dessins.
En fait, sans
le savoir. Quelle attaque, attention
Guillaume.
Mais dans ton téléphone,
allez, moi, comme
jamais dire.
Un débat né d'une fausse rumeur ici dans cette émission. Vous cherchez de l'attention et de l'huile sur le feu. On voit bien que c'est bien le naturel du dessinateur
c'est
qui
Guillaume
revient.
Qui veut faire du buzz.
Voilà, moi j'en appelle Patrick Chapat, le Suisse qui va nous amener
l'IA.
Un peu de neutralité.
Coco est une IA d'ailleurs.
Patrick Chapat, c'est à vous.
Non, mais moi je crois que l'IA sera tout à fait capable de. Il est déjà capable de faire des blagues. Statistiquement, 1 sur 10 peut être bonne et donc ça peut se traduire en dessin. La dernière version de ChatGPT fait du cartoon. Hein. Avant, c'était vraiment très, très, très mauvais. Maintenant, je suis débarrassé de gens qui m'envoyaient des messages en disant « Ah, j'ai une super idée, je peux vous la donner. »
Mais non, mais c'est parce que t'es bon public.
Voire même, je peux vous la vendre. Et en fait, j'ai jamais évidemment réalisé une de ces idées qui était en général, je m'excuse pour les lecteurs qui m'envoyaient ces messages, mais pas terrible. Et maintenant, je vois qu'ils les font eux-mêmes. Ils les font et ils les postent. Et parfois, ils ont beaucoup de likes, figurez-vous. Mais ce que l'IA n'aura jamais, c'est une personnalité qu'on reconnaît, une voix, on sait qui parle, d'où ça vient. Ça, c'est pas sorti de ferme de trolls, c'est pas sorti de... Et donc, de même que la vache du Limousin a une traçabilité dans votre assiette, je crois qu'en humour, on aura besoin, et en presse, et en journalisme, on aura toujours plus besoin de voix qu'on reconnaît, qui ont une traçabilité. Il y a l'honnêteté de savoir... qui parle et de quel point de vue on parle. Et c'est vrai pour les dessinateurs de presse.
Bah, j'apprécie votre comparaison, Patrick Chapat, avec cette vache du Limousin, pour justement pointer cette traçabilité, cette singularité. Quand on voit justement les nouvelles formes ou images, enfin nouvelles, on s'entend relativement à l'histoire que l'on est en train de parcourir, les mêmes peut-être peuvent jouer un peu ce rôle d'objet de caricature. Alors, à la différence de ce que vient de dire Patrick Chapat, il n'y a pas de traçabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment par qui ils sont signés, mais est-ce que ça peut être une forme qui, par certains aspects, peut être similaire à la caricature ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Patrick Chapat pour dire que, de toute façon, l'humour trouvera toujours des moyens à s'exprimer, et le même est un bon exemple. Mais le même, justement, ne nécessite pas la maîtrise du dessin. Et ça, c'est quand même compliqué. Donc, seuls des spécialistes peuvent réaliser des dessins de presse. Alors, peut-être que l'IA, rapidement, y arrivera plus qu'on ne l'espère. Moi, je crois aussi que l'IA est très puissante. Donc, comme Patrick Chapat, je pense que ça va venir très probablement. Mais dans le même, ce qui est intéressant, c'est que, il y a une forme de démocratisation ou d'appropriation de cette question de l'humour. Alors, par la réplication, par la répétition, tout comme au XIXe siècle, les gens s'appropriaient des caricatures pour les brandir dans des manifestations, pour aller les coller dans des confessionnaux, etc., pour faire enrager les curés, ça nécessitait pas une grande technologie. Là, le même, oui. Alors, sauf qu'aujourd'hui, les mêmes, ils sont quand même très utilisés à des fins propagandistes, notamment par l'extrême droite, qui est très efficace et friande de ça. Mais en fait, si on regarde bien, le dessin de presse a toujours été aussi instrumentalisé par les pouvoirs, par les partis, plus ou moins, à certaines époques. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un dessinateur, Remakers, qui était totalement inconnu avant et qui a été le chouchou des Alliés. Il a été publié dans des dizaines de langues différentes sur ses dessins de presse. Hein, c'est des dessins satiriques. Il était présenté comme neutre et pourtant, il a été mondialisé. Et Roosevelt a dit que c'était la personnalité civile la plus influente de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, les instrumentalisations, ça date pas d'hier.
Allez, je vais donner le dernier mot, le mot de la fin, ça sera un mot d'espoir et ce mot sera signé Coco, comme le titre de son livre. pour l'avenir du dessin de presse, Coco. Hein, qui est en train de dessiner. Hein, c'est pour ça qu'elle est, elle avait la tête ailleurs, Coco, parce qu'elle nous fait son fameux dessin. Pardon, alors, dites-nous le dessin, ce qu'il représente, Coco, pour finir.
Ah bah non, moi j'aime pas parce que ça se raconte pas trop un dessin. Vous en rirez peut-être entre vous, mais je voulais. Bah, du coup, je suis obligée.
Bah oui.
Mais déjà, je voulais juste avoir moi aussi, comme Patrick, un dernier mot quand même positif sur le dessin de presse, parce que je trouve que ce sont des images qui continuent de fonctionner, de faire réagir, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, c'est pas très grave parce qu'en fait le dessin aussi est là pour susciter des réactions. Quand il y en a pas, c'est là qu'il faut s'inquiéter.
Et ben on verra si votre dessin va susciter des réactions, celui que vous êtes en train de faire à l'instant et que vous pourrez donc voir sur le site de l'application Radio France de la Fabrique de l'Information. À la réalisation, Sorge Leroy, à la préparation, Joséphine Reinhardt, comme d'habitude. Je renvoie à vos livres signés Coco par Coco, La censure aux États-Unis par Patrick Chapat, La bascule du monde aussi, on s'en est servi pour préparer cette émission, Regard croisé de photographes et de dessinateurs de presse aux éditions La Martinière, et bien sûr aux travaux de Guillaume Doisy.